Vous vous plaignez quand votre voiture tombe en panne sur l'autoroute. Imaginez la même chose avec un avion. C'est ce que je vais vous raconter avec le vol 610 de la compagnie aérienne Lion Air. Lion Air est une compagnie aérienne à bas coût. Elle a été fondée en Indonésie en 1999. Le Boeing 737 MAX qui a décollé de l'Indonésie le 29 octobre 2018 n'aurait jamais dû quitter la piste. Lors de son vol précédent, l'avion avait donné de lecture de vitesse et d'altitude incorrectes et personne n'a pris la décision d'annuler le vol. L'avion a décollé quand même à 6h20 du matin avec 189 passagers. Quelques minutes après, les pilotes ont reçu le premier signal que quelque chose n'allait pas. La colonne de commande a commencé à trembler, ce qui indique que l'avion n'a pas assez de vitesse et qu'il risque de perdre l'altitude. L'avion a continué à monter, mais les pilotes n'ont pas pu déterminer ni la bonne vitesse ni la bonne altitude. Ils ont demandé l'aide au contrôle de la circulation aérienne. Aussi, deux capteurs critiques ont enregistré de différentes lectures entre le pilote et le copilote, alors qu'ils devaient montrer les mêmes lectures sur les deux écrans. Tout d'un coup, l'avion a chuté de plus de 300 mètres, aggravant la confusion dans le cockpit. Une situation alarmante s'était produite. Le système informatique de l'avion avait forcé le nez de l'avion vers le bas, mais les pilotes se sont rétablis. En dehors de l'avion, l'un des capteurs d'angle d'attaque a faussement indiqué que le nez de l'avion était trop haut pointé et qu'il pouvait décrocher. Là, je vais entrer dans la partie un peu technique, mais c'est pour m'y expliquer. Cela a déclenché un système automatique appelé AMCAS qui a poussé les stabilisateurs sur la queue de l'avion et qui a poussé le nez vers le bas. Chose incroyable, il est probable que les pilotes n'étaient pas au courant de ce système automatique. Un nouveau ajout au Boeing 737 MAX que beaucoup de pilotes n'étaient pas informés. Ils ont réagi en déplaçant les stabilisateurs dans la direction opposée en essayant de relever le nez de l'avion vers le haut. Cela a créé un bras de fer entre l'avion et les pilotes qui a fait basculer l'avion plus de deux fois. Dans leur lutte contre le système automatique, les pilotes ont plusieurs fois renforcé l'interrupteur de compensation du stabilisateur électrique pour relever le nez de l'avion, mais ce n'était qu'une solution temporaire. Et au bout de 10 secondes environ, le système automatique s'est remis en marche. Il est probable que les pilotes n'ont jamais compris que le nouveau système de Boeing leur était défavorable. Dans la dernière minute du vol, les choses sont devenues frénétiques. Le copilote a déclaré au contrôle de la circulation aérienne qu'il souhaitait faire un demi-tour. Tous les instruments de l'avion indiquaient des altitudes différentes, a précisé le copilote. Les pilotes perdaient leur combat contre le système automatique. Ils ont désespérément tiré sur les colonnes de contrôle pour tenter de niveler l'avion, mais c'était trop tard. L'avion a plongé 5000 pieds à 450 milles par heure, directement dans la mer de Java. Les 189 personnes à bord sont mortes. En conclusion, je vais dire que même si la technologie avance, elle peut être défavorable pour nous, et elle peut causer plus de problèmes. C'était Nadim au micro.
Bonjour, je m'appelle Khadiga, je suis en classe de seconde et je vais vous parler d'une rubrique appelée Comment réussir votre entrée en seconde. Tout d'abord, tout est nouveau. La liberté, les méthodes de travail et les déplacements entre les cours sont plus nombreux. La seconde est une classe plus déstabilisante et la plus importante de notre scolarité. Au collège, une fois que l'on a passé la sixième, l'endroit où se déroulent les cours, les emplois du temps sont habituels, alors qu'au lycée, cela ne se déroule pas toujours au même endroit. De plus, se rajoutent des enseignements d'exploration comme le PFG, l'MPS et la science d'ingénieur. Au lycée, on fait face à de nouvelles matières telles que la SES en seconde et la philosophie en terminale. Les méthodes de travail sont différentes, notamment dans la quantité de travail à fournir à la maison. Par exemple, moi, je travaille entre 1 heure le soir et le week-end 2 heures, et en plus avec des cours particuliers. Au lycée, les cours sont plus théoriques, comme en français, l'écriture du commentaire, la question de corpus, la dissertation, puis enfin, on fait beaucoup plus d'exercices d'application à la maison. Au lycée, il faut directement se mettre au travail, car en seconde, on peut passer de 15 de moyenne en troisième à 10 de moyenne en seconde. Des matières disparaissent en seconde, telles que l'art plastique, la musique, et que je regrette. Les enseignants au lycée sont beaucoup plus rapides dans les explications et beaucoup plus stricts. Ils sont beaucoup plus sérieux. Un des plus grands dangers est que les élèves sont moins surveillés par les professeurs. Il leur arrive parfois de sortir de l'établissement et parfois aussi de sécher les cours car ils ont l'envie légitime de ne jamais revenir. Et cela cause beaucoup de problèmes pour l'administration et les enseignants. Le comportement des élèves est plus indiscipliné qu'au collège. En conclusion, réussir en seconde, c'est avant tout être capable de travailler en autonomie et être capable de connaître notre avenir. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.
Salut les gars, je m'appelle Nadim de la radio du LFC.
Et moi, Adèle.
Bienvenue dans l'émission des secondes de la radio du LFC. Terrible nouvelle pour le football français. Terrible nouvelle pour le football tout court. Un avion transportant Emiliano Sala de France jusqu'au pays de Galles a perdu le contact avec les contrôles aériens le 21 janvier aux alentours de 20h. On rappelle que le joueur avait signé un contrat avec le club de Cardiff une semaine avant sa disparition. Emiliano Sala et son pilote auraient dû atterrir aux alentours de 21h au pays de Galles, mais ils ne sont jamais arrivés à destination.
Emiliano Sala était un Argentin d'origine italienne. Il est né le 31 octobre 1990 à Cululu en Argentine. Son poste est avant-centre. Sa carrière professionnelle a débuté en 2012 aux Girondins de Bordeaux. Ensuite, il a été prêté à 3 clubs et enfin engagé à FC Nantes, club de première division.
Maintenant, parlons de sa disparition. Cette tragédie s'est produite le 21 janvier 2019, alors que l'avion léger Piper Malibu, qui le transportait de Nantes vers Cardiff, a disparu à 21h23 au large des îles Anglo-Normandaises.
Peu avant, à l'aéroport de Guernesey, l'avion qui volait à 1500 mètres demandait de descendre pour atterrir, mais aucun message de détresse n'a été reçu. Les recherches sont déclenchées le soir même de la disparition de l'avion par les secouristes de Guernesey, avec 2 hélicoptères et plusieurs bateaux. Interrompues dans la nuit en raison d'une dégradation de météo, puis reprises 3 jours suivants sans succès. Plusieurs objets flottants ont été détectés sans qu'il soit possible d'affirmer qu'ils aient un lien avec l'avion disparu.
Le 24 janvier, à 16h15, la police de Guernesey annonce l'arrêt des recherches. Suite à cette terrible nouvelle, le gouvernement argentin demande aux autorités britanniques et françaises de poursuivre les recherches pour trouver l'appareil disparu, jusqu'à ce que l'avion et son équipage soient localisés. De nombreux footballeurs se sont également mobilisés pour que la police locale poursuive les recherches. Suite à un appel aux dons, des recherches privées organisées par la famille du joueur disparu reprennent le samedi 26 janvier. Le 30 janvier, l'AAIB annonce la reprise des recherches sous-marines avec un navire spécialisé équipé d'un sonar à balaïque latérale et d'un véhicule sous-marin téléguidé.
Le 3 février, 2 bateaux commencent les recherches en se partant d'une zone d'environ 4000 marins carrés au nord de la fosse des Casquettes. Un bateau localise une épave par 67 mètres de fond, 1 km de la dernière position connue. Peu après, le sous-marin Géo Océan 3 obtient des images de l'épave dans laquelle un occupant est visible et dont l'immatriculation est bien celle du Malibu disparu, l'avion parfait, particulièrement entier. Le jeudi 7 février, l'AAIB annonce que le corps a été remonté, mais que les tentatives pour remonter l'avion ont échoué en raison de mauvaises conditions météo. Le corps débarqué au matin à Portland sur la côte sud de l'Angleterre est confié à la police du Dorset pour identification. Dans la soirée, celle-ci annonce qu'il s'agit d'Emiliano Sala.
Pour rendre hommage aux joueurs disparus récemment, tous les joueurs de l'équipe de Nantes ont décidé de jouer avec le maillot d'Emiliano Sala pendant le match contre Saint-Étienne. 2 jours après, le club a décidé de ne plus donner le numéro 9 à aucun joueur en hommage à Emiliano.
Nos sources sont les journaux en ligne et Wikipédia. Je m'appelle Adèle, je vous remercie.
Bonjour Selena.
Bonjour Zoé. Comment vas-tu?
Très bien, et toi?
Bien, merci. Tu sais quel gros problème persiste en Égypte?
Non. Quel est-il?
Le travail des enfants.
C'est pas vrai.
Eh bien si, comme en Inde, à Madagascar, Sierra Leone, Namibie, Nigeria, etc. Enfin, c'est-à-dire... Dans la plupart des pays sous-développés, le travail des enfants persiste toujours. Par exemple, en Égypte, on a environ 9 millions d'enfants de moins de 14 ans qui travaillent la plupart du temps 6 jours par semaine et 12 heures par jour. Et leur salaire ne représente presque un tiers des revenus familiaux. Tu peux imaginer ?
C'est énorme !
Oui, effectivement. Est-ce que tu sais où on les retrouve ?
Non, où ça ?
Eh bien, c'est très simple, voyons, dans les quartiers pauvres. Comme par exemple le quartier d'Asbet el-Nahl, où 15% des habitants sont des enfants âgés de moins de 5 ans et dont près de 25% d'entre eux travaillent avec leur famille quotidiennement. Mais surtout, je pense que tu en as déjà entendu parler du quartier du El-Mokattam, qui est près de la citadelle de Saladin, où on retrouve les chiffonniers du Caire. Ils sont environ 180 000 enfants. C'est énorme quand même.
Énorme. Mais qui sont-ils ?
C'est plutôt de nombreux enfants qui travaillent en Égypte, comme je l'ai dit précédemment, avec les statistiques d'environ 9,4% de la population. Ces enfants exercent des métiers assez inhabituels, comme par exemple des vendeurs ambulants, des ramasseurs de coton, des apprentis mécaniciens ou encore chiffonniers. En outre, les enfants qui sont issus des familles pauvres et devant subvenir aux besoins de leur famille sont eux aussi parfois obligés de travailler. Est-ce que tu as déjà entendu les abalines du Caire ou encore petits chiffonniers ?
Non, ça ne me dit rien.
Eh bien, à une époque, le Caire a connu une telle crise de logement que c'est là que de nombreuses familles ont élu résidence. C'est ainsi que près de 350 000 personnes coptes pour la plupart vivent du ramassage et du tri des ordures, car le quartier croule sous les ordures. Oui, et ben, tu savais aussi qu'il y a une petite infinité des enfants de rue ? Les enfants de rue, ce sont des orphelins qui, pour survivre, distribuent la drogue ou mendient dans les rues. C'est vraiment dommage pour eux, je sais pas.
Mais quelles sont les raisons ?
Eh bien, il y a beaucoup de raisons qui expliquent ce phénomène. Comme nous le dit Albert Cosri dans son livre « Mendiant et orgueilleux », la vie est simple, monsieur l'officier. Que faut-il pour un homme ? Que faut-il à un homme pour vivre ? Un peu de pain suffit. Voilà pourquoi les enfants travaillent. C'est à cause de la pauvreté. Car environ 20% de la population égyptienne vit en dessous du seuil de pauvreté. Les enfants, issus de ces familles, ne peuvent jouir de tous leurs droits, tels que le droit à la santé, à l'éducation et bien d'autres. Et bien souvent, les infrastructures scolaires et médicales qui leur sont proposées ne peuvent pas leur offrir ce qu'ils attendent de ces services. Il y a aussi l'analphabétisme qui rend les familles à avoir un enfant qui travaille qu'un enfant qui étudie pour leur aider dans leur travail quotidien et ramener un peu plus d'argent. Les familles aussi préfèrent le garçon à la fille car les garçons peuvent les soutenir économiquement à n'importe quel âge. Enfin, dès le jeune âge, ils peuvent comme commencer un peu à travailler. Et il y a aussi le fait qu'une forte demande des employeurs qui veulent une main-d'œuvre bon marché et soumise, particulièrement dans le secteur informel, enfin un peu illégal, tu vois, genre. Il y a aussi un engagement politique insuffisant face au trafic des enfants. C'est... Je sais pas, je pense qu'un état politique doit pouvoir subvenir à ce problème.
Mais alors, y a-t-il des impacts sur eux ?
Mais bien sûr ! Tu te rends compte ? 6 heures par semaine et 12 heures par jour.
C'est énorme !
Mais oui, ils s'épuisent au travail. Et leurs horaires sont plus élevés que ce que exige la loi du travail pour les adultes, qui sont de 8 heures par jour pour 5 jours par semaine. Sans avoir conscience aussi des conséquences que cela peut avoir sur leur état de santé. Ils peuvent par exemple attraper des maladies respiratoires ou une augmentation des maladies chroniques comme le diabète, l'insuffisance rénale, le cancer, etc. Mais il y a aussi le fait qu'il y a un manque d'assurance médicale à cause du travail informel. Ces enfants sont aussi victimes de violences. Dans la plupart des lieux informels, il y a la maltraitance. On retrouve ces violences envers eux par leur famille s'ils n'apportent pas assez d'argent quotidiennement, par les employeurs qui veulent les exploiter sans prendre conséquence, sans prendre en conséquence que ce sont encore des enfants.
Et comment y remédier ?
Eh bien, c'est très simple. On peut par exemple commencer par rendre l'école gratuite, car la scolarisation est le moyen le plus sûr de lutter contre le travail des enfants. Un enfant qui va à l'école est un enfant qui sort de la pauvreté. Car une fois devenu adulte, il pourra avoir un travail avec un bon salaire et à son tour envoyer ses enfants à l'école. Mais pour que ce soit possible, chaque pays doit s'engager à rendre la scolarisation obligatoire et à offrir de bonnes écoles gratuites à ses enfants. Il y a aussi le fait de sensibiliser les entreprises. Dans certains pays, il est courant de trouver des enfants qui travaillent dans des entreprises. Ce sont souvent des emplois difficiles, par exemple du travail à la chaîne en usine, et mal payés. L'une des solutions pour lutter contre cette forme de travail est d'expliquer aux chefs des entreprises qui embauchent des enfants pourquoi il ne faut pas le faire. Ceci est primordial. Après, on a aussi un programme qui s'est créé, qui s'appelle le programme de l'IPEC, Programme International pour l'abolition du travail des enfants. Il agit déjà dans 88 pays. Après, on peut aussi surveiller les lieux où les enfants travaillent. C'est aussi un moyen de repérer les enfants qui travaillent et de les aider à changer de vie, à aller à l'école, etc. C'est aussi une manière de lutter contre l'exploitation des enfants, de s'assurer que ceux qui travaillent le font dans de bonnes conditions, comme par exemple pas de travail dangereux, un nombre normal d'heures, ainsi qu'une paye correcte pour le travail effectué. Il y a aussi un autre programme qui est apparu, qui s'appelle le programme de lutte contre le travail des enfants de l'OIT, Organisation Internationale du Travail. En tant que consommateur, on peut aussi éviter d'acheter des produits fabriqués par des enfants. C'est une action qui nous concerne, surtout dans les pays riches, car on ne se rend pas compte de ce qu'est le travail des enfants. On a quelques indices pour nous mettre dans la voie. Si par exemple le produit est bon marché et l'étiquette indique fabriqué en Chine, ou en Inde, Bangladesh, Népal, dans les pays sous-développés, il y a alors de grandes chances pour que ce produit ait été fabriqué soit par un enfant, soit par un adulte d'un certain âge. Donc, pour terminer, j'ai aujourd'hui une invitée très spéciale qui va nous parler de comment elle est passée d'un certain statut d'analphabète à une personne qui a commencé à aller à l'école, à avoir des projets pour l'avenir. C'est l'histoire de Awatif Mursi, une fille analphabète depuis il y a quelques années plutôt. Comme d'ailleurs la plupart des filles de son village de Beni Shahran en Égypte. Bonjour Awatif, comment vas-tu ?
Bien, merci.
Dis-moi Awatif, peux-tu me raconter le jour où tu as appris l'ouverture d'une nouvelle école ?
Bien sûr, je ne l'oublierai jamais, car c'est le jour où quelqu'un est venu chez nous pour demander le nom des enfants qui n'allaient pas à l'école. C'est alors que ma mère leur a donné mon nom. Et j'étais ravie et impatiente d'être sûre que j'irais à l'école.
Peux-tu nous dire aussi où était votre nouvelle école et comment étaient composées les classes ?
Pour toutes les filles, on avait une seule salle de classe qui était au rez-de-chaussée, d'une maison convertie en école.
Ah ! Et comment était l'école de l'intérieur ?
Tout était clair, coloré. Il y avait des jeux et des images, des choses que je n'avais jamais vues auparavant. C'était pour moi la réalisation d'un rêve.
Dis-moi aussi, est-ce que tout le monde était d'accord d'envoyer leurs enfants là-bas ?
Non, tout le monde ne l'était pas. N'était pas aussi enthousiaste dans le village, au moins au début.
Qui, par exemple, n'était pas d'accord ?
Eh bien, certains agriculteurs se plaignaient que l'école allait les priver de la main-d'œuvre bon marché que représentaient les enfants. Même mon beau-père n'était pas convaincu. Il disait « Et pourquoi est-ce qu'une fille aurait besoin de s'instruire ?»
Mais comment l'as-tu convaincu?
Ce n'est pas moi, c'est la chance. C'est le point de vue de Farouk Abdelnaim, le commerçant d'âge mûr. Il a juste montré l'importance de l'éducation des filles en disant qu'il était arrivé à la conclusion que l'éducation d'une fille est plus importante que celle d'un garçon. Car un homme peut toujours s'en sortir, quelles que soient les conditions. Mais pas une fille. Il faut qu'elle soit instruite pour s'en sortir dans la vie.
Ce qui est totalement vrai. Et maintenant, comment est votre école? S'est-elle développée?
Aujourd'hui, l'école comporte trois salles de classe et est considérée comme un investissement intelligent qui apporte des avantages à la communauté.
Awatif, en quelle classe es-tu?
Aujourd'hui, je suis à l'école secondaire locale et j'envisage de faire des études universitaires.
As-tu une idée de quel métier tu aimerais exercer plus tard?
Beaucoup de gens ici à Beni Shalan veulent que je sois médecin. Mais moi, je veux être enseignante pour transmettre à d'autres enfants ce que j'ai appris.
Ceci est vraiment magnifique. Merci de nous avoir consacré de ton temps et bonne continuation dans tes études.
Merci.
Comme on l'a vu ici, dans un village où l'analphabétisme semble incontournable, on n'est pas en manque d'histoire où l'éducation des filles a fait une grande différence dans la qualité de vie et dans les affaires des familles. Soudain, les ordonnances de médecins et les mises en garde sur un sac d'engrais sont devenues plus claires. Et surtout, l'exemple des enfants a encouragé plusieurs adultes à s'inscrire à des cours d'alphabétisation et ainsi, on peut réussir avec cette continuation à vaincre le travail des enfants. Merci.
Merci Selena.
Merci Zoé. À bientôt.